This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le mois d'avril, le Parisien a parlé à plusieurs reprises d'un phénomène nouveau et inquiétant. Les trafiquants de drogue recrutent des tueurs à gages, souvent très jeunes, soit pour des assassinats ciblés, soit pour faire des morts dans le camp d'en face, pour marquer les esprits. Deux faits divers récents ont mis en lumière le phénomène à Paris et Marseille. Dans les deux affaires, les tueurs présumés avaient 18 ans et l'un des deux, prénommé Matteo, a fait au moins 3 victimes. On fait le point sur ce sujet dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Jean-Michel Décugis du service police-justice et Damien Delsoni qui dirige ce service. Le mercredi 12 avril, Le Parisien consacre son dossier de une à un phénomène qui semble se développer en France, l'apparition de jeunes tueurs à gages. Damien Delsoni, dans votre éditorial, vous dites que ça fait penser aux sicarios d'Amérique latine. C'est quoi un sicario ?
Un sicario, tout simplement, c'est un tueur à gages. Cet univers du tueur à gages, il est plutôt lié à des gangs d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, beaucoup de gangs dans le narcobanditisme. C'est un phénomène qui n'était pas très répandu en France jusque-là.
Dans cet épisode de Code Source, on va revenir sur deux faits divers distincts. D'abord, celui que l'on a raconté dans ce dossier du Parisien, l'an dernier, en 2022, le 18 juillet, à Paris, rue Popincourt, dans le 11e arrondissement, un bar est attaqué.
Il y a une voiture qui s'approche d'un bar à chicha, où il y a plusieurs personnes qui sont attablées, et il y a un tireur qui s'extirpe de la voiture et qui ouvre le feu à la Kalachnikov sur un homme qui est assis en terrasse. La scène, elle ne dure que quelques secondes, mais c'est évidemment d'une extrême violence.
Information à vous communiquer aussi ce soir. Une fusillade a éclaté dans un bar à chicha dans le 11e arrondissement de Paris. Une fusillade qui a fait un mort.
La victime a 38 ans, un homme prénommé Mamadou. Jean-Michel Décugis, qu'est-ce que l'on sait de lui ?
C'est un jeune père de famille, puisqu'il vient d'avoir un bébé. Il avait déjà été condamné pour trafic de drogue. Les policiers retrouveront dans son portable des SMS un peu curieux, de valises transitant entre la Colombie, la Belgique et la France. Donc le règlement de compte est une des hypothèses de la police. Il aurait aussi, selon la police, pu participer à un règlement de compte d'un caïd qui aurait ensuite voulu se venger en le faisant tuer.
L'enquête va durer près d'un an et mener au placement en garde à vue de 9 suspects le 13 mars 2023, enquête dont a eu connaissance le service police-justice du Parisien, ce qui nous permet aujourd'hui de raconter avec certains détails les événements qui ont conduit à l'assassinat de cet homme, Mamadou, rue Popincourt. Tout commence en réalité en mai 2022. D'après les enquêteurs, un homme échafaude un projet criminel. Damien Delsoni, cet homme est surnommé Don Marlowe. Qui est-il ?
Son vrai prénom, c'est Kamel, mais effectivement, tout le monde l'appelle Don Marlowe. Il est en train de purger une peine pour des violences qu'il a commises sur un adolescent. Et en fait, lui, il va jouer le rôle d'intermédiaire entre les cerveaux, en fait, ceux qui commanditent l'assassinat, et les tueurs qui vont, eux, commettre l'assassinat.
Don Marlowe est en prison, au Beaumet, à Marseille. Du coup, que fait-il, Jean-Michel Décugis, pour mettre ce plan à exécution ?
Bien, comme beaucoup de caïds, il a un portable en prison, et il va appeler son demi-frère, qui se trouve près de Rennes, et il va lui proposer un contrat rémunéré 150 000 euros. supprimer quelqu'un.
Et donc la cible est Mamadou, mais le vendredi 3 juin, le demi-frère de Don Marlowe est arrêté à Paris.
Ouais, à sa descente du TGV, il habite en Bretagne, il vient à Paris, et il vient à Paris avec des armes dans un sac, et il est contrôlé à la gare Montparnasse, un peu d'ailleurs parce qu'il a un comportement qui éveille les soupçons d'un certain nombre d'agents, un peu stressés, et effectivement quand il le contrôle et qu'ils ouvrent son sac, il découvre un arsenal à l'intérieur, donc il est immédiatement arrêté et incarcéré.
Don Marlowe sort de la prison des Baumettes, il profite d'un vice de procédure. Après l'arrestation de son demi-frère, il reprend la mission en main lui-même. Mais le 28 juin, Don Marlowe est arrêté dans le Val-de-Marne.
Il est arrêté parce qu'il est à bord d'un véhicule, alors avec une autre personne, et ce véhicule, il est faussement immatriculé. C'est donc une voiture volée, maquillée. Donc il est entendu sur ce fait d'occuper une voiture volée, et là il va donner une réponse assez effarante, parce qu'il va dire « Non, mais moi, les voitures volées, c'est pas mon truc. Moi, je fais dans le stup et dans le meurtre. » Et en fait, il dit « Non, mais on s'est pas bien compris, je voulais dire Mehar, qui est le verlan de Arme. » Donc voilà, il botte un peu en touche, mais enfin, il fait quand même cette déclaration tout à fait surprenante.
Et il est libéré.
Il est libéré avec une simple convocation pour le tribunal correctionnel quelques mois plus tard.
Le 18 juillet, c'est un lundi, dans le 11e arrondissement de Paris, rue Popincourt, des coups de feu éclatent, Mamadou est tué. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. L'un des membres du commando est maîtrisé par des habitants du quartier, passé à tabac puis remis aux forces de l'ordre. Deux autres hommes ont réussi à s'enfuir, Don Marlowe et un jeune homme prénommé Willad, 18 ans, qui a été recruté, d'après les enquêteurs, pour remplacer le demi-frère de Don Marlowe, arrêté en juin, gare Montparnasse. Les policiers remontent la trace des deux hommes. Ils sont interpellés après l'été, le 4 septembre, à la frontière avec la Suisse.
Oui, alors ils se sont mis au vert après la fusillade de la rue Popincourt, tous les deux. Ils sont partis en Espagne, passer une bonne partie de l'été. Puis évidemment, il faut toujours revenir à un moment donné. Et donc, quand ils reviennent sur le territoire français, ils étaient déjà identifiés et donc là, ils sont arrêtés.
Ce jeune de 18 ans, Willad, ne donne pas de nom de complice, mais il passe aux aveux. Qu'est-ce qu'il reconnaît ?
C'est assez sidérant parce qu'effectivement, il va être très silencieux sur les commanditaires, notamment parce qu'il dit qu'il a peur, que c'est des gens qui sont dangereux, qui peuvent le tuer ou s'en prendre à sa famille. En revanche, il va décrire une scène extrêmement violente. Il va reconnaître assez vite que c'est lui l'assassin, c'est lui qui a tiré sur Mamadou dans le bar à chicha de la rue Popincourt. Et il va expliquer la scène, il va décrire la scène, il va dire « voilà, j'arrive, je vide mon chargeur ». Et il se souvient d'un détail qui n'en est pas un, c'est qu'il entend le double clic qui prouve qu'on est arrivé au bout du chargeur.
Ce jeune de 18 ans, Willad, qu'est-ce qu'on sait de lui ?
On sait que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout de Paris ni de la région parisienne parce qu'il habite à Roquebrune-Cap-Martin, qui est une commune juste frontalière avec Monaco. On sait aussi que c'est un bachelier, il a un bac électrotechnique, donc il a été recruté dans le but d'exécuter ce contrat.
Il a donc été recruté comme tueur à gages, il n'avait pas de lien avec la victime ou avec les commanditaires. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de participer à ce projet d'assassinat ?
Il n'a pas une réponse très claire, il dit « en gros, je sais pas. En deux mois, j'ai fait des choses que j'avais jamais faites avant, j'ai basculé dans quelque chose d'extrêmement violent. » Donc il n'a pas une explication, si ce n'est évidemment ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire un gain financier, parce qu'il exécute un contrat, il est payé pour ça. Mais voilà, il a du mal à expliquer comment il est devenu tueur à gages en réalité.
C'est suite à ce fait divers que le Parisien a fait sa une en avril sur les tueurs à gages. Et une deuxième affaire, plus récente, est venue montrer une nouvelle fois l'actualité de ce phénomène. Jean-Michel Descugis, nous sommes le lundi 3 avril à Marseille, dans le quartier de la Joliette, dans le 2e arrondissement. Et un tueur à gages s'apprête à faire un bain de sang.
Il est minuit 40, et il y a une voiture qui arrive près du snack chez Hamza. Et là, un homme descend et va tirer sur un groupe de jeunes qui est sur le trottoir. Trois jeunes vont s'écrouler, un de 16 ans qui meurt sur le coup, et deux autres qui sont grièvement blessés, et un de 15 ans décédera un peu plus tard. Et la voiture repart immédiatement après.
Marseille a connu une nuit de terreur dimanche dernier. Le bilan est de 3 morts et une douzaine de blessés. Ces fusillades sont liées à la guerre que se livrent les groupes rivaux pour le contrôle des points de deal. Les victimes sont de plus en plus jeunes et ces assassinats semblent de moins en moins ciblés contre les chefs de réseau. Même les petites mains font les frais de ces règlements de compte.
Jean-Michel Descugis, rappelez-nous le contexte à Marseille. Deux clans sont en guerre. Guerre ouverte au départ pour contrôler les points de deal de la cité de la Paternelle. Présentez-nous ces deux clans.
La DZ Mafia et Yoda, du nom de ce personnage de Star Wars qui est dessiné sur une fresque à l'entrée de la cité, la Paternelle, qui est un des épicentres du trafic de drogue à Marseille, où ces deux clans en fait tiennent des points de deal et se font la guerre pour les garder ou prendre celui de l'autre. À la tête de ces deux clans, il y a deux anciens alliés qui sont devenus ennemis et qui se sont fait la guerre, en tout cas entretuer, pour récupérer ou garder des points de deal à l'intérieur de cette cité de la Paternelle, avec des alliances avec d'autres clans, d'autres bandes, et on tire, on tue, on terrorise des cités qui appartiennent à ces deux clans, et là aujourd'hui on a deux blocs, d'où cette guerre impitoyable.
Et ces deux hommes, Féfé qui dirige le clan Yoda et Tic qui est à la tête de la DZ Mafia, ont eu une sorte d'altercation il y a quelques mois.
Oui, un différend à des milliers de kilomètres de Marseille, en Thaïlande, dans une discothèque. C'est Féfé qui lance un glaçon sur Tic, parce que trois jours avant, il y a eu un règlement de compte et que l'un des siens est mort. Et donc, c'est une manière de le provoquer. Et ça va mettre le feu aux poudres. Et à partir de là, eh bien, ce conflit va se transformer en véritable vendetta, avec des fusillades tous les deux, trois jours, des répliques d'un camp vers l'autre.
On revient sur la fusillade dans le quartier de la Joliette, le lundi 3 avril, dans laquelle deux jeunes de 15 et 16 ans sont tués. Les enquêteurs ont des informations sur la voiture, la Peugeot 308, que les témoins ont vu partir après les tirs.
Oui, c'est la brigade de recherche et d'intervention qui, en amont des assassinats, essaient de récolter des informations. Et donc, ils savent qu'il y a une 308 qui a été utilisée pour un règlement de compte. Et donc, ils vont remonter, grâce à cette 308, à notre véhicule, une 208. C'est dans cette 208 que le tueur va être arrêté dans la commune de Gardanne, qui est une commune près de Marseille.
Ce double meurtre intervient à peine une heure après une autre fusillade à Marseille.
Moins d'une heure avant, dans les quartiers nord, il y a eu une double fusillade où deux caïds vont être tués à l'arme de guerre par un commando. Et ensuite, moins d'une heure après, il y a ce double meurtre de la Joliette qui est perçu par les enquêteurs comme une réplique, c'est-à-dire une vengeance de la précédente fusillade.
Vous l'avez dit, l'homme qui a tiré ensuite à la Joliette, donc qui a fait deux morts, a été arrêté le lendemain à Gardanne, un jeune à peine majeur, prénommé Matteo.
C'est un jeune de 18 ans, plutôt de classe moyenne. Son beau-père est chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est déscolarisé assez vite. Quelqu'un qui est connu de la police déjà pour des faits de violence, puisqu'il va se retrouver dans un centre fermé. Puis en prison même pour du trafic de stupes, comme petite main. Et c'est d'ailleurs là, en prison, qu'il va rencontrer son mentor, proche de la DZ Mafia, et il va offrir ses services, hein, quand il sort de prison en fin 2022, il va proposer ses services à la DZ Mafia, sur une boucle Snapchat, et il va être recruté par la DZ Mafia pour supprimer les gens.
Jean-Michel Lécugis, par ailleurs, il est soupçonné par la justice d'avoir tué un jeune Parisien de 22 ans.
Un jeune Parisien de 22 ans retrouvé à Marseille, dont le corps a été retrouvé criblé de balles par les CRS deux jours après une fusillade qui s'était déroulée le 27 mars dans la cité de la Paternelle.
À quoi ressemble ce jeune tueur à gages, Matteo ?
Ce qui a surpris les enquêteurs quand ils l'ont arrêté, c'est que c'est quelqu'un de très frêle, 40 kilos, et qui a les cheveux très longs, qui lui tombe dans le bas du dos, avec un visage très émacié et recouvert de boutons d'acné.
Matteo est soupçonné d'avoir commis encore plus de meurtres.
Effectivement, et le mode opératoire et les armes utilisées laissent penser que Matteo, qui en plus ne se cache pas du tout d'être recruté pour ça et d'être un tueur à gages de la DZ Mafia, les policiers le soupçonnent d'avoir fait au moins 7 ou 8 autres règlements de compte sur Marseille depuis simplement le début de l'année.
Et il devait prendre des vidéos après avoir tué ses cibles.
Ça faisait partie du contrat, c'est-à-dire qu'on lui indiquait en général une voiture à récupérer avec une arme à l'intérieur, et ensuite il devait effectivement filmer l'exécution de son contrat. pour une raison très simple, c'est que ceux qui vont le payer ensuite voulaient être bien sûr que c'était lui qui avait exécuté le contrat et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est une manière d'avoir une preuve de ce qu'il faisait.
Je vais enchaîner le contrat, frérot, je vais redescendre sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Sur la vie de ma mère, à dire, je suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler.
Là, c'est sa voix qu'on entend. Il a publié certaines vidéos et Jean-Michel Descugis, visiblement, il avait des primes quand des vidéos de lui, de ses meurtres, ont été largement relayées sur les réseaux.
Il était payé plus cher quand ses vidéos faisaient le buzz sur les réseaux sociaux. Il mettait ses vidéos sur des boucles et là, plus il y avait de vues, plus il touchait de l'argent. En général, son contrat, c'était 20 000 euros par contrat, mais si les vidéos faisaient plus de vues, il gagnait plus.
Ces vidéos, elles sont aussi utilisées pour faire de la propagande. D'abord pour se mettre en avant, pour dire voilà ce que nous, on est capable de faire, pour marquer aussi l'adversaire, parce que ils sont dans une logique, ils vivent avec leur ton, et ils sont dans une logique aussi de, quelque part, de médiatisation de leurs actions.
Au total, combien est-ce qu'il a gagné avec ces assassinats ?
Environ 200 000 euros. En tout cas, c'est ce que les enquêteurs pensent. Ça fait à peu près 25 000 euros par contrat, voire plus.
Pendant sa garde à vue, Jean-Michel Descugis, est-ce que Matteo a exprimé une forme de regret ?
Absolument pas. Les policiers qui l'ont interrogé parlent de quelqu'un très cynique. Il en parle de façon très méthodique, sans aucune émotion. Il a raconté, commenté ces assassinats, qu'il a reconnus pour trois, avec des détails très précis, comme s'il était totalement extérieur à ces crimes.
À un moment de sa garde à vue, Damien Delsoni, Matteo dit quelque chose qui glace les enquêteurs.
Oui, c'est-à-dire qu'il va leur dire « Heureusement, quand vous m'avez interpellé, j'avais pas d'armes sur moi, parce que sinon je serais mort les armes à la main. »
Jean-Michel Descugis.
Il a dit beaucoup de choses qui ont terrifié les enquêteurs, et notamment que des types comme lui, il y en avait plein dans Marseille. Et ce que les policiers ne sont pas loin de croire.
Damien Delsoni, l'apparition de ces jeunes tueurs à gages recrutés par Internet, par Snapchat, ça change quoi ? Est-ce que ça va entraîner plus de meurtres parce que les assassinats sont plus faciles à organiser ?
Plus de meurtres, je ne sais pas. En tout cas, ce que ça prouve déjà avec cette affaire-là, c'est qu'il y a une très grande réactivité, en fait. C'est-à-dire qu'une équipe peut être touchée à minuit, à 1h du matin, elle réplique immédiatement. Parce qu'il y a ce personnel qui est disponible, et comme il sous-traite, en fait, les règlements de compte à ces tueurs à gages, effectivement, il y a une réponse qui est rapide, il y a une réponse qui est extrêmement violente, parce qu'on voit bien que c'est des profils, enfin, en tout cas, celui de Matteo, de gens qui sont extrêmement froids et qui n'ont aucune émotion, aucune forme d'empathie pour personne. Donc, oui, on peut imaginer qu'il y ait une espèce de montée encore en puissance, même si on est déjà sur des chiffres qui sont très importants depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, on en est déjà à plus de 20 règlements de compte.
Quel est l'intérêt pour des groupes de dealers de sous-traiter ces meurtres ?
C'est du pain béni, parce que ces types-là, ils sont jetables, corvéables à merci, on peut les tenir. On leur dit, tu pars sur ce contrat, une heure après, il est exécuté ou pas. Mais en tout cas, avant, les caïds, c'était eux-mêmes qui réglaient leurs comptes. Donc c'était beaucoup plus professionnalisé, mais beaucoup plus risqué aussi pour eux. Avant, ils tenaient à faire eux-mêmes le boulot. Aujourd'hui, ils délèguent totalement, sans prise de risque, en gros.
Et les cibles aussi ont changé ?
Les cibles, c'est des toutes petites mains, c'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. On veut terroriser le réseau d'en face et peu importe qui on tue. À la paternelle, j'y suis passé encore hier, devant la cité, il n'y a plus aucun dealer, plus aucun client. La cité, elle est comme morte. En tout cas, le deal est mort pour l'instant.
Merci à Damien Delsoni et Jean-Michel Descugis. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Emma Jacob. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement. Code Source @leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.